Côte d'Ivoire profonde et en temps universel, c'est l'heure du journal sur Radio de la Paix. Bonjour à tous. Renforcer la cohésion sociale, prévenir les conflits éleveurs-agriculteurs et préserver le couvert forestier, telles sont les grandes lignes du conseil de la sous-préfecture de Yamoussoukro. L'école nationale d'administration ENA ouvre ses portes. Elle vise au travers de cette action à se faire connaître du grand public ivoirien. Nomination d'Ousmane Sonko comme Premier ministre du Sénégal. L'expert électoral Ndianga Sila se prononce dans ce journal sur la performée par Diomaye Faye et Sonko. Et puis ce journal va se refermer avec l'invité de la rédaction. Ned Willy, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, se prononcera sur le recours de la LIDO, la FIDH et le MIDH contre la mesure d'amnistie de 2018 à des condamnés en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011. Soyez les bienvenus à ce journal. Nous démarrons dans le centre de la Côte d'Ivoire. La sous-préfecture de Yamoussoukro a organisé hier mercredi 3 avril dans ses locaux la première session du conseil de sous-préfecture. Cette rencontre qui a réuni les élus locaux, des responsables d'organisations de jeunes et de femmes ainsi que des chefs de village de la circonscription s'est achevée par l'adoption d'un plan de développement. Emiliao.
Cadre de planification des actions de développement sur l'ensemble du territoire de la sous-préfecture, ce premier conseil a adopté un plan d'action visant à favoriser l'union et la cohésion au sein des populations, précise Yeodo Nyiminina, sous-préfet de Yamoussoukro.
Les grandes lignes dans le plan d'action sont de renforcer la cohésion sociale dans nos villages, lutter contre les conflits élevés agriculteurs, et il y a aussi la préservation du couvert forestier à Yamoussoukro. L'un des grands points vraiment de ce plan d'action, c'est de pouvoir vraiment arriver à tenir des bonnes statistiques pour pouvoir donc permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions de programmer les bonnes actions de développement dans nos villages.
Autre volet important de ce plan d'action, la formation des chefs de village de la circonscription. Yeodo Nyiminina.
Quand on parle donc de paix sociale, de cohésion dans nos villages, les questions que les chefs de village soient formés à la gestion des villages. Donc, nous voulons créer vraiment un cadre pour former nos chefs de village sur l'organisation et le fonctionnement donc des villages, à réduire donc les litiges et les différends avec les autres membres donc de la société.
Une annonce saluée par Nana Kwasi Kounan, chef du village de Kami.
Il faut reconnaître que la gestion de nos villages se faisait de manière utopique avec nos ancêtres. Aujourd'hui, la vie moderne et le monde moderne nous imposent une autre façon de gérer les villages. Nous sommes l'administration à la base et on a besoin de la formation, même si individuellement on apprend, mais il y a des tests qui existent pour la gestion de nos cités. Et donc, comme formation, ce serait la bienvenue.
Tombé en léthargie, les conseils de sous-préfecture, organes de gestion et de développement local ont été redynamisés depuis 2022-2023 par le gouvernement ivoirien. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
De la capitale politique à la capitale économique de la Côte d'Ivoire, nous nous intéressons au lancement de la digitalisation des services de la Cour de cassation. C'était hier, mercredi 3 avril, au Conseil supérieur de la magistrature à Cocody. Dans le cadre de ce projet, ce sont plus de 280 agents, tous issus de la Cour de cassation, qui se verront dotés d'outils informatiques. Le président de la Cour de cassation, Hua Kofi, est revenu sur le coût total de ce projet et ses objectifs.
Ce projet d'un coût global de 300 millions de francs CFA est bien avancé puisque ce jour, nous sommes là pour remettre les ordinateurs portables aux magistrats qui généralement sont toujours très occupés et mobiles. En plus de ces ordinateurs portables, ils reçoivent aussi leurs adresses électroniques professionnelles du nom de domaine IGOUV ainsi que des puces flottes. L'objectif poursuivi, c'est l'efficacité dans le travail. Nous sommes à l'heure de la digitalisation et tous les appareils, sinon toutes les administrations de l'État sont appelées à se mettre à l'heure de la digitalisation. La Cour de cassation ne serait est en reste. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de mettre en place cette direction et qui va même faciliter le travail des magistrats. Les magistrats font beaucoup de recherches au niveau de l'informatique. Vous avez toutes sortes d'informations que vous pouvez avoir en allant sur le net et ça nous permettra d'être beaucoup plus efficaces dans nos décisions et de faire en sorte que nos décisions soient rapidement publiées parce que là aussi on a une direction de la publication aussi. C'est dans ce but-là que nous avons mis en place le système de l'information et nous allons la rendre encore plus performante et l'améliorer davantage.
Le président de la Cour de cassation, Hua Kofi, était au micro de Jean-Mélène Bitti. Retour au centre de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci à Boukro, village rattaché à la commune de Boaké. Les fils et filles de cette localité se sont retrouvés le week-end dernier à la faveur de la fête de Pâques pour réfléchir sur les projets de développement de leur village. Occasion saisie par Euphrasie Yao, coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines et cadres de la région pour appeler à l'union, à la cohésion et à la paix en vue d'impulser le développement. Depuis Boaké, retrouvons la correspondante de Joseph Assalé.
Avant d'initier d'autres projets communautaires, les cadres de village de Boukro ont fait le diagnostic de l'existant. Nguessan Yao Mathurin, président de la Mutuelle de Développement Économique et Social.
Nous avons des projets que nos parents et nos grands-parents ont entamés, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y en a qui sont fonctionnels, mais avec la démographie galopante, comme l'école par exemple, nous sommes submergés. Le bâtiment de 6 classes est devenu un groupe scolaire. Ça fait 2 ou 3 écoles, maintenant il y a 12 vacations. C'est difficile pour nos enfants. En matière de santé aussi, nous avons les bâtiments de notre centre de santé qui existent depuis près de 40 ans, mais qui n'a jamais été fonctionnel. Donc, on a décidé de réhabiliter ces bâtiments-là avec l'appui des cadres afin de pouvoir rendre le centre de santé fonctionnel.
Il promet que plusieurs autres projets verront le jour pour améliorer sensiblement le bien-être des populations. Et cela à une seule condition, précise Euphrasie Yao, coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines, par ailleurs cadre du village de Boukro.
J'ai demandé aussi à mes parents, tous les cadres, qu'on soit plus unis. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Sans la paix, on ne peut pas aller loin. Même si on t'a offensé, demande pardon. Parce que tu veux aller loin. Donc si tu gardes des rancunes dans ton cœur, des humiliations, des frustrations, il faut dépasser ça. Il faut avoir une certaine résilience pour aller de l'avant pour que beaucoup de ce village moderne fasse parler de lui.
Elle exhorte également les femmes à prendre leur part dans le processus de développement local amorcé par leur village. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
L'École nationale d'administration ENA s'ouvre à la population. Elle organise cette toute première journée portes ouvertes les 3, 4 et 5 avril 2024 en son sein à Cocody de Plateau. Objectif, être connu du grand public ivoirien. Mata Touré.
L'innovation majeure cette année est sans conteste le carré VIP et l'association du secteur privé à ses journées portes ouvertes. Narcisse Yesso, directeur général de l'ENA, nous explique pourquoi.
Le carré VIP est un espace qui est conçu pour développer davantage la promotion des activités de l'ENA auprès du secteur privé, de sorte que chacun puisse apporter sa contribution à la réalisation de ses ambitions-là de l'ENA. L'autre élément nouveau, le fait d'associer les partenaires du privé à l'activité, c'est de leur montrer que de plus en plus, avec le développement de l'administration, il faut décloisonner les espaces.
La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente de ces journées, a réexhorté les futurs candidats à ne pas se livrer à la facilité par le paiement des concours notamment.
Jusqu'à un avenir récent, nos concitoyens pensaient qu'il fallait être l'enfant d'un tel ou d'une telle, qu'il fallait être proche d'une telle ou d'un tel pour pouvoir avoir accès à l'ENA, ou encore qu'il fallait même payer. Et cela était inacceptable. Aujourd'hui, je suis rassuré parce que je vois que tous ceux qui entrent à l'ENA ont fini par comprendre qu'en réalité, il faut être sérieux, il faut travailler et il faut suivre les directives.
Venu massivement découvrir les différents stands présents à l'ENA, plusieurs jeunes n'ont pas caché leur envie d'appartenir à la grande famille des énarques de Côte d'Ivoire. Rappelons qu'une vingtaine de stands accueillent les étudiants pour les deux prochains jours.
Fixation du prix du kilo du cacao à 1500 francs CFA. La plateforme ivoirienne pour le cacao durable, PICD, qui regroupe les sociétés coopératives et les organisations de la société civile membre de la PICD, accueille favorablement cette annonce. Cependant, elle réitère son appel aux autorités pour l'ouverture d'un espace de discussion afin de réfléchir à une solution concertée et durable sur le mécanisme de commercialisation face au nouveau contexte de la filière cacao. Écoutons les explications de Bakary Traoré, membre de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable.
La plateforme a publié une communication en réaction à cette annonce, une communication pour accueillir favorablement cette augmentation de 50% du prix bord champ, qui était une des demandes de la plateforme dans notre précédente communication. Surtout, nous avons réitéré notre appel au gouvernement pour qu'on puisse ouvrir la réflexion sur notre mécanisme de commercialisation. Quand vous regardez notre mécanisme de commercialisation, il a été pensé pour une situation de chute des prix sur le marché mondial. C'est-à-dire que on a mis en place un système pour dire si les prix chutent sur le marché mondial, on peut protéger le pouvoir d'achat des producteurs, ce qui est très bien. Mais c'était dans un contexte aussi où il y avait beaucoup plus de risques que les prix chutent. Là, on est dans un contexte où il y a beaucoup plus d'opportunités en fait que les prix augmentent en raison de plusieurs facteurs. Hein. Les questions climatiques qui font que la production de cacao est de plus en plus moins rentable. Il y a la question aussi des législations qui rentrent en vigueur. Nous-mêmes, la Côte d'Ivoire et le Ghana, on a mis en place la norme ARS 1000, qui est une norme très importante sur la durabilité du cacao, qui va fait que le cacao va être produit d'une certaine façon qui va faire qu'on aura du cacao de qualité et donc parfois la qualité ne rime pas avec la quantité, donc on aura peut-être moins de cacao mais on aura plus de cacao de qualité, ce qui est très bien. Mais il y a surtout le règlement européen qui rentre en vigueur bientôt et ce règlement va limiter la création de nouvelles plantations de cacao en déforestant, en détruisant de nouvelles forêts.
À l'instant, Bakary Traoré, membre de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, en ligne avec Jean-Claude Mabéa. Deuil dans le monde de la littérature. L'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril 2024 en France. Révélée au grand public en 1984 avec Ses goûts, une œuvre de renommée mondiale, Maryse Condé laisse derrière elle une bibliographie de grande importance, le plus souvent sur l'esclavage, la colonisation et le racisme. Regard sur la vie et l'œuvre de l'écrivaine avec Alain-Serge Agnessan, universitaire, écrivain et metteur en scène.
Si on devait nous mettre un mot, je dirais résistance. Résistance non pas pour tomber dans le gros piège des identités cloisonnées, du refus de la rencontre. C'est une résistance pour revenir à soi afin de mieux repartir vers l'autre. Toute l'œuvre de Maryse Condé, en particulier celle de Ses goûts, ce magnifique roman historique en deux volets, et évidemment tous les romans qu'elle va enchaîner par la suite, sont mus par cette question, la question qui demande comment puis-je aller vers l'autre lorsque on vient de blessures historiques aussi profondes que la colonisation et l'esclavage, pour s'ouvrir à l'altérité, pour
Maryse, à travers Ses goûts, nous révèle la chute du royaume Bambara. Et à côté de cela, il y a également toute l'histoire du peuple antillais, guadeloupéen, peau noire, masque blanc.
C'est là le plus fort d'une écrivaine aussi brillante et talentueuse et lucide que Maryse Condé, je veux dire. Et là, vous parliez à l'instant, évidemment, lorsqu'on pense à Ses goûts, ce qui est très beau et la grande force des grands romanciers historiques, c'est que aux histoires individuelles des personnages, va s'arc-bouter l'histoire de l'Afrique, mais également l'histoire de ces rencontres entre ces trois continents du commerce et de l'esclavage, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe également. Donc il y a cette volonté, cette intelligence dans Ses goûts qui permettent de toucher à l'universel en partant d'histoires locales et très singulières.
Joint par Didier Blé, Alain-Serge Agnessan, universitaire, écrivain et metteur en scène, revenait sur l'œuvre et la vie de l'écrivaine Maryse Condé. Nous prenons la direction du Sénégal où le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ousmane Sonko Premier ministre. Pour l'expert électoral Ndiaga Sylla, ces deux hommes forment un duo gagnant pour le Sénégal car ils se connaissent bien. Nous l'écoutons.
qu'il s'agit d'un dieu d'espérance, sur un masque d'espoir pour permettre effectivement, au-delà de certains qualifiés peut-être comme étant justement ou pouvant inspirer éventuellement un dualisme au sein de l'État, moi je considère que vu leur histoire, vu le projet qu'ils ont partagé, qu'ils ont initié ensemble, les brimades qu'ils ont subies, vu leur amitié, moi je pense que leur duo devrait être considéré comme étant une force qui empêcherait effectivement l'exercice de l'un ou de l'autre du pouvoir solitaire. Parce que chacun effectivement veillera, c'est comme une sorte de sentinelle à ce que l'autre ne dévie pas effectivement du chemin qu'ils se sont tracé. C'est pourquoi d'ailleurs la nomination elle est à la fois légitime et logique parce que c'est les gens qui maîtrisent en fait donc leur projet pour sortir en fait donc le Sénégal d'un certain nombre de reculs qu'on a connus durant les dernières années, surtout sur le plan démocratique.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ce duo vole en éclats au fil du temps?
Au contraire, moi je pense que ce duo vit son histoire parce qu'il est composé quand même d'abord de deux amis qui ont été en fait donc ensemble au niveau des impôts et domaines. Il faut même comprendre que l'actuel président a un de ses fils qui porte le nom de Ousmane Sonko et je pense que lui-même il est conscient du fait que c'est Ousmane Sonko qui est l'initiateur et porteur du projet et en un certain moment on a fait obstacle à sa candidature. C'est pourquoi lui il a pensé à un plan B et je pense que c'est ce plan B par le choix porté sur le président Diomaye Faye qui a marché.
Vous écoutiez l'expert électoral Ndiaga Sylla, interrogé par Constant Maïlé. Notre retour en Côte d'Ivoire se fait avec la dernière rubrique de ce journal, l'invité de la rédaction. Ce jour, nous recevons le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Ned Willy. Il revient sur le recours de trois organisations de ce domaine, la LIDO, la FIDH et le MIDH, contre la mesure d'amnistie de 2018 à des condamnés en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011. Il répond à cet effet aux questions de Christelle Yesso.
Bonjour Monsieur Ned Willy.
Bonjour Madame.
Alors vous ainsi que deux autres organisations des droits de l'homme avez lancé un recours à la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à l'amnistie de 2018. Déjà, quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous opposez à cette loi?
Depuis, je crois, août 2018, le président de la République a pris une ordonnance d'amnistie pour amnistier en fait tous les faits qui se sont déroulés pendant la crise post-électorale. Et nous qui sommes aux côtés des victimes depuis 2012-2013 et qui nous sommes constitués partie civile dans les procédures qui ont été ouvertes devant la Cour spéciale d'enquête et d'instruction, nous avons estimé premièrement que cette ordonnance-là violait les droits des victimes que nous représentions aussi. Et à cet effet, nous avons donc introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision du chef de l'État. Parce qu'on estime que la loi qui a été visée pour prendre l'ordonnance d'amnistie était illégale, en ce qu'elle donnait habilitation au chef de l'État de prendre des ordonnances, sinon une ordonnance en matière économique et financière et non en matière judiciaire.
En quoi estimez-vous que cette loi constitue un déni de justice pour les victimes de la crise?
L'État de Côte d'Ivoire est parti à des traités et conventions internationales qui ne reconnaissent pas l'amnistie pour des crimes d'une certaine ampleur. Et je pense que dans la crise post-électorale, on a pu constater le niveau de déshumanisation auquel on est arrivé au regard de la gravité des crimes qui ont été commis. Donc on a estimé qu'il n'était pas normal qu'on puisse faire passer par perte de profit ce qui était arrivé aux victimes. Nous avons donc introduit, après avoir fait un recours gracieux, introduit un recours pour excès de pouvoir. Et c'est justement dans ce cheminement, dans cette procédure-là, que le 21 mars dernier, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent par rapport à notre saisine. Nous avons donc opté pour la Cour de justice de la CEDEAO pour essayer d'obtenir alors réparation.
Alors donc vous avez cherché en premier lieu à entrer en contact avec les autorités ivoiriennes?
Non, pas entrer en contact. Nous sommes allés comme le demandait la loi. C'est-à-dire que lorsque vous constatez qu'un acte administratif ne vous satisfait pas ou bien vous estimez qu'il est illégal, vous avez d'abord la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique de celui qui a posé cet acte ou bien lui-même qui a posé cet acte. Et c'était le cas dans le cas du président de la République. Donc on a fait un recours gracieux auprès du président de la République qui n'a pas eu de suite. Donc, deux mois après, nous avons saisi donc la Chambre de la Cour suprême, qui est aujourd'hui le Conseil d'État, pour demander que soit annulé cet acte du président de la République-là. Voilà ce à quoi répond le recours pour excès de pouvoir. droit. Maintenant, n'ayant pas obtenu satisfaction, nous allons donc vers nos juridictions sous-régionales pour essayer d'avoir cette satisfaction.
Et donc, que dit la CEDEAO face à votre requête?
On ne l'a pas encore déposée. On a juste rédigé la requête et on va l'actualiser en fonction des derniers éléments que nous venons d'avoir, notamment la décision d'incompétence de la Cour du Conseil d'État.
Alors, quelles sont les actions concrètes que vous ainsi que les autres ligues des droits de l'homme comptez entreprendre à part celle-ci?
On le fait étape par étape. On a commencé par des juridictions nationales qui ne nous ont pas donné satisfaction. Notre pays est parti à certaines conventions internationales, sous-régionales et internationales. On va donc recourir à ces instruments-là, à ces mécanismes-là. Et puis, voilà, on va apprécier.
Pensez-vous vraiment que l'annulation de cette loi d'amnistie pourrait être un point positif pour la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire?
Mais déjà que respecter la loi, respecter le droit, c'est pour nous le véritable levier pour le respect des droits humains. Et donc, tout acte qui, pour nous, est utile pour que les droits humains soient respectés, on ne doit pas en faire l'économie.
La requête que vous comptez déposer à la CEDEAO, ce sera pour quand?
Je ne saurais vous donner de date exacte, mais nous y travaillons.
Merci beaucoup, Monsieur Net Willy.
Je vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction, Net Willy, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Maintenant, nous passons au rappel des titres de ce journal. Renforcer la cohésion sociale, prévenir les conflits éleveurs-agriculteurs et préserver le couvert forestier, telles sont les grandes lignes du conseil de la sous-préfecture de Yamoussoukro, tenu hier mercredi 3 avril dans ses locaux. L'École nationale d'administration ENA ouvre ses portes les 3, 4 et 5 avril 2024. Elle vise au travers de cette action à se faire connaître du grand public ivoirien. Et au Sénégal, sur la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, l'expert électoral Ndiaga Sylla estime que la paire Diomaye Faye Sonko est une paire gagnante pour le Sénégal. Ce journal est terminé. Je vous retrouve à 15h pour le Flash. D'ici là, la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Nous ouvrons cette revue de presse avec la visite officielle du président italien Sergio Mattarella en Côte d'Ivoire. À ce propos, le Nouveau Réveil s'intéresse au dessous de cette rencontre entre les présidents italiens et ivoiriens. Selon le journal du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la coopération économique, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et enfin d'autres sujets d'ordre stratégique et politique. Soir Info lui parle à son niveau d'échange enrichissante entre Ouattara et Mattarella hier. En effet, selon le chef de l'exécutif ivoirien, il est attendu de ce voyage la finalisation des projets d'accord en cours de négociation avec les autorités italiennes. Il le dit en ces termes, et je cite, « Cette visite nous donne l'opportunité d'échanger sur des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage les liens qui unissent nos deux pays. » Le journal gouvernemental Fraternité Matin, lui, est plus précis sur l'objet de la visite du président italien en Côte d'Ivoire. Notre confrère est revenu sur les propositions du chef de l'État au président italien qui est de venir investir en Côte d'Ivoire dans le cacao, la nacarde, en plus du domaine des hydrocarbures. À cette demande plus loin, Sergio Mattarella lui fait des propositions qui sont entre autres, et je cite, « Il y a plusieurs entreprises italiennes qui sont installées ici. Avec le président, nous avons envisagé la possibilité de stimuler l'insertion de nouvelles entreprises italiennes en collaboration avec des entreprises locales dans le secteur de la production du cacao. » L'inauguration de la centrale solaire de Boundiali dans Soir Info, le premier ministre Mambé indique lors de cette inauguration de la centrale solaire, et je cite, « La politique, ce n'est pas de faire des discours seulement, mais aussi de travailler pour que nos parents soient dans des meilleures conditions, à savoir l'eau, l'électricité, le bitume, de grands travaux, et vous allez voir ce travail que nous sommes en train de faire, a-t-il promis. » Dans le même sillage, le mandat annonce la transition vers l'énergie propre avec une capacité de 80 MW. Cette centrale solaire a coûté environ 47 milliards de francs CFA et elle permettra d'économiser l'émission de l'équivalent de 60 000 tonnes de CO2 par an et fournit l'électricité à 430 000 personnes. Entre autres sujets au menu de notre revue de presse, la fixation du prix bord champ de la campagne intermédiaire de la commercialisation du cacao fixé à 1500 francs CFA, une annonce qui a fait réagir le PDCI via son porte-parole. À ce niveau, selon le Nouveau Réveil, Ndiaye, le porte-parole du PDCI, indique que les producteurs attendent mieux que ces 1500 francs pour Bredoumi Souaïla Kouassi. Le gouvernement n'avait d'autre choix que d'augmenter le prix du cacao avec la pression de son parti, le PDCI. Sur cette même affaire, Soir Info révèle la grande déception des députés du PDCI RDA. Dans une déclaration, le président du groupe parlementaire Dossimo a rappelé, et je cite, « Les prix de cacao sur les marchés internationaux sont en cette période les plus élevés et que si l'on s'en tient à la promesse du gouvernement, dans sa réforme de 2012, de toujours reverser 60% du prix international aux producteurs,